Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir. L'épidémie d'Ebola décrétée ce soir urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie actuelle a déjà tué 1700 personnes en République démocratique du Congo. Correspondance à Genève de Jérémy Lanche. Elisabeth Borne étrenne son costume de ministre de l'écologie au Sénat où elle a dû répondre sur le dossier de la ligne de fret ferroviaire entre Perpignan et le marché de Rungis. Une ligne stoppée ce soir faute de marchandises alors qu'elle est conçue pour limiter le trafic des poids lourds. Oana Favenec nous donnera les raisons de ce fiasco. 10 ans après le crash du vol Rio-Paris qui avait fait 228 morts. Le parquet décide de poursuivre Air France, la compagnie aérienne, mais pas Airbus, le constructeur. Les familles de victimes crient au scandale. Explication à suivre dans ce journal signé Florence Turm. Au moins 1676 morts, des centaines de cas suspects, une maladie qui s'installe dans la durée. Près d'un an après l'apparition d'Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS relève son niveau d'alerte. L'épidémie est désormais classée urgence sanitaire de portée internationale. Pour le président de l'Agence des Nations Unies, il est temps pour le monde de prendre acte de la menace que représente Ebola. En ligne de Genève, Jérémy Lanche.
C'est la quatrième fois que l'OMS déclare une urgence sanitaire mondiale, la deuxième fois à cause du virus Ebola. Mais à la différence de l'épidémie qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014, celle qui touche la RDC ne s'est pour le moment pas étendue aux pays voisins. Sauf que l'arrivée du virus dans la grande ville de Goma et ses 2 millions d'habitants a changé la donne, de même que les récents assassinats de personnel engagé dans la lutte anti-Ebola. En relevant le niveau d'alerte, l'OMS demande aux pays de la région de renforcer leur vigilance, mais sans fermer leurs frontières avec la RDC. Les conséquences seraient désastreuse, dit l'agence de l'ONU, avec des malades potentiels qui seraient tentés de traverser clandestinement les frontières avec le risque de propager un peu plus le virus. L'OMS espère aussi envoyer un signal d'alarme à la communauté internationale pour qu'elle finance enfin ses programmes sur le terrain. L'argent manque cruellement, les besoins se chiffrent en centaines de millions de dollars. Les vaccins anti-Ebola pourraient même manquer. La France, qui vient de nommer un envoyé spécial pour Ebola en RDC, est notamment pointée du doigt pour son manque d'engagement.
Jérémy Lanche à Genève, rappelons que l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière, avait tué 11 300 personnes en 2013 et 2014, essentiellement au Libéria, la Sierra Leone, également en Guinée. Ankara promet de riposter à l'attaque qui a coûté la vie aujourd'hui à l'un de ses diplomates à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Attaque non revendiquée pour l'instant. La Turquie mène depuis plusieurs mois dans cette région une opération contre le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, qualifié d'organisation terroriste par Ankara. Par ailleurs, les États-Unis confirment qu'ils ne fourniront pas d'avions F-35 à la Turquie en raison de l'achat par celle-ci de missiles russes S-400, comme Donald Trump d'ailleurs l'avait indiqué hier. La Turquie devait en principe acheter 100 appareils de type F-35, des avions de chasse dernière génération. De plus, la Turquie sera exclue du programme de fabrication de ces avions furtifs auxquels elle participe pourtant depuis son lancement. Une grande première dans l'histoire de la Ve République. Le gouvernement compte plus de femmes que d'hommes. Il compte désormais 18 femmes et 16 hommes dans l'équipe d'Édouard Philippe, 17 si l'on compte bien sûr le Premier ministre. Ce qui nous amène à l'image du jour, la passation de pouvoir entre François de Rugy et Elisabeth Borne qui lui succède au ministère de l'écologie. Le sortant a exprimé son double soulagement de voir quelqu'un de compétent pour le remplacer et aussi soulagement à titre plus personnel, a-t-il déclaré. Elisabeth Borne, quant à elle, s'est fendue d'un premier discours très volontariste.
Je mesure l'immense honneur qui m'est fait de vous succéder, ainsi qu'à Nicolas Hulot, à la tête de ce grand ministère. Tout au long de mon parcours, comme au cours de ces 2 dernières années en tant que ministre, j'ai acquis la conviction qu'il ne suffit pas de décréter la transition écologique pour qu'elle s'accomplisse. La transition écologique, elle se concrétise tous les jours par des actes. Beaucoup a été fait depuis 2 ans. Beaucoup reste à faire. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Ceux qui me connaissent savent que cela ne me fait pas peur.
Elisabeth Borne a étrenné son nouveau costume de ministre de l'écologie au Sénat pour l'examen du projet de loi énergie et climat, où elle a été interpellée tout de suite d'ailleurs pour un premier dossier brûlant. Le train dit des primeurs, le train qui circule entre Perpignan et Rungis et qui circule à vide, faute de clients, alors qu'il représente en principe une alternative au trafic des poids lourds. Cette ligne de fret est d'ailleurs suspendue carrément jusqu'au 1er novembre. La décision est tombée justement aujourd'hui. Elisabeth Borne avait commencé à gérer ce dossier délicat comme ministre des Transports. Eh bien, Oana Favenec, il la poursuit aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions.
En tant que ministre des Transports, ce vendredi, Elisabeth Borne avait déjà rétropédalé. Elle qui avait acté la mort de la ligne pour des raisons économiques. Le remplacement des wagons frigorifiques coûterait en effet entre 20 et 30 millions d'euros. En fin de semaine dernière, elle avait promis que le train continuerait à rouler. Mais les transporteurs ne voulant pas payer la modernisation du matériel, ils s'étaient organisés autrement. Depuis lundi, les wagons de fret circulaient donc à vide. Résultat, 25 000 camions supplémentaires affrétés par an, une facture difficile à assumer en tant que nouvelle ministre de la Transition écologique. Et ses opposants ne se sont pas fait prier pour le lui rappeler au moment de sa nomination. Des faiseuses de rails, selon l'insoumis Adrien Quatennens, une ministre des Transports qui a accompagné la réduction du fret ferroviaire pour le vert Julien Bayou. Elisabeth Borne était encore interpellée ce mercredi au Sénat sur sa gestion de ce train fantôme par un élu communiste. Dans l'après-midi à Perpignan, le ministère des Transports promettait avoir demandé à la SNCF de trouver une solution pérenne. Les deux entreprises occitanes se seraient engagées à reprendre le fret. Parmi les pistes évoquées, trouver des transporteurs supplémentaires pour utiliser la ligne dans le sens Rungis-Perpignan et pas seulement avec des wagons frigorifiques.
Ajoutons qu'Étienne Jadot, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, parle à propos de ce dossier de cynisme absolu de la part d'Elisabeth Borne qui fait semblant, dit-il, de défendre le train des primeurs parce qu'elle refuse d'investir dans des wagons frigorifiques tout en organisant avec la SNCF le transport des marchandises par 25 000 camions par an. Fin de citation. La Cour de cassation valide le principe de plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif, une des dispositions de la loi Travail, des indemnités comprises désormais entre 1 et 20 mois de salaire brut. L'avis de la Cour de cassation pèse bien sûr très lourd. D'ailleurs, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'est félicitée parlant de très bonnes nouvelles pour l'emploi. Le patronat applaudit, pas les syndicats. Le crash du vol Rio-Paris, 10 ans après. Le parquet de Paris vient de réclamer un procès pour Air France, mais un non-lieu pour le constructeur Airbus. Au lendemain de la catastrophe qui avait fait 228 morts en juin 2009 au-dessus de l'Atlantique, les deux entreprises avaient été mises en examen pour homicides involontaires. Mais à l'issue de cette très longue procédure marquée par des expertises contradictoires, le parquet retient donc finalement une négligence et une imprudence de la part d'Air France. Mais estime Florence Turm qu'il n'y a pas de charge suffisante pour renvoyer le constructeur devant un tribunal correctionnel.
C'est le givrage en vol des sondes de vitesse qui constitue le point de départ de la catastrophe. Mais depuis le début, l'enquête a donné lieu à une bataille d'experts pour établir les responsabilités dans l'enchaînement qui a conduit au crash. Aujourd'hui, le parquet retient l'insuffisance d'informations et de formation des pilotes qui se sont trouvés désorientés. Autrement dit, la responsabilité potentielle d'Air France, mais pas celle d'Airbus, malgré les conclusions de l'un des rapports d'expertise, s'indigne Alain Jakubowicz, l'avocat de l'Association des familles de victimes.
Moi, je peux vous dire que pour les familles de victimes, et j'ai du mal à les contredire, on veut protéger Airbus. Air France, il y a bien longtemps que l'État s'en soucie pas beaucoup, et je crois que c'est un autre débat. Quant à Airbus, dans le contexte actuel, notamment de la guerre contre Boeing, et Boeing ayant ses difficultés, eh bien, pour les familles de victimes, je ne dis pas qu'elles ont raison, mais en tout cas, elles y pensent très fort. On dit on peut pas s'exposer à un procès qui mettrait en cause la responsabilité d'Airbus, ce fleuron de l'économie nationale et européenne dans le contexte actuel. Ce que le parquet propose, c'est un demi-procès. C'est inacceptable.
Les familles de victimes ont encore un mois pour faire valoir leurs observations face à ces réquisitions du parquet et tenter d'obtenir un procès en correctionnel à la fois pour Air France et Airbus. La décision finale appartient maintenant au juge d'instruction chargé du dossier.
Florence Turm. Le vote de ratification du CETA par les députés repoussé à mardi prochain, ce qui n'empêche pas le débat d'avoir débuté cet après-midi. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a été défendu mordicus par Jean-Yves Le Drian. Traité qui supprime les droits de douane pour sur presque la totalité des produits échangés. Un accord important selon le ministre des Affaires étrangères. L'opposition, qu'elle soit de gauche ou de droite, est vent debout, vous le savez, contre ce texte. Pas de surprise, aux États-Unis, El Chapo, condamné à la prison à perpétuité par un juge de New York, le Mexicain Joaquin Guzman, surnommé El Chapo, ce qui veut dire le trapu à cause de sa petite taille, non pas à cause de son sombrero, a été le plus puissant narcotrafiquant de son temps. Âgé de 62 ans, il a fait passer au moins 1200 tonnes de cocaïne sur le territoire des États-Unis en 25 ans, les États-Unis, où il finira donc ses jours, mais cette fois-ci derrière les barreaux. La tendance météo pour demain jeudi, un peu de pluie le matin dans le nord-ouest, elle se décalera vers l'est dans l'après-midi, des averses sur les massifs montagneux, du soleil un petit peu partout ailleurs, température maximale 20 à 24 degrés, 24 à 30 ailleurs, jusqu'à 34 près de la Méditerranée. Fin de cette édition, préparée avec Annie Brault, excellente soirée à l'écoute de France Culture.